Vous écoutez France Culture.
Talmudique. Une émission de Markana Waknin. Jean Leselbaum et Antoine Spir, bonjour.
Bonjour.
Jean Leselbaum, vous êtes universitaire, docteur en communication. Vous avez été professeur de lettres classiques latin-grec, journaliste et directeur de communication d'un grand groupe. Vous avez aussi été directeur pendant 10 ans de la revue Tenois du MJLF. Antoine Spir, vous êtes journaliste de presse, de radio et de télévision, professeur associé à l'Université de Compiègne. Vous avez été directeur du département de recherche en sciences humaines de l'Institut national du cancer. Vous êtes vice-président de la LICRA, auteur de nombreux essais. Vous êtes aussi aujourd'hui éditeur aux éditions Le Bord de l'Eau. C'est la première fois dans Talmudique que je reçois un duo. Cheikh Rianou, comme on dit en hébreu, heureux soit ce moment. Ce n'est pas la première fois cependant que nous nous rencontrons et permettez-moi d'évoquer le souvenir ému d'avoir été à cette même table, mais de l'autre côté du micro, quand Antoine Spir m'avait invité il y a presque une trentaine d'années maintenant à l'émission Panorama à l'occasion de mon premier livre, mais c'était au siècle dernier. Si l'on se demande quelle est la plus haute valeur du judaïsme, on serait sans doute très embarrassé car, outre la difficulté de se mettre d'accord sur le sens du mot « valeur », la pluralité des approches du judaïsme et la diversité de ses définitions nous inviteraient à penser que cette réponse est quasiment impossible. Et pourtant, à la lecture du dictionnaire du judaïsme français de 1944 à nos jours, publié sous votre direction, Jean Leselbaum et Antoine Spir, à lire les articles et la préface que vous avez rédigés pour ce dictionnaire et l'orientation que vous avez donnée à l'ensemble de l'ouvrage, une valeur semble s'esquisser et émerger de manière privilégiée, celle de la transmission. Cette valeur centrale articule un grand nombre d'autres valeurs cardinales comme l'étude, l'éducation, la mémoire, l'avenir et permet d'explorer de très nombreuses problématiques et thématiques qui vous ont permis de construire un dictionnaire qui est lui-même un très bel objet de transmission. Ce dictionnaire, je le dis d'emblée, est passionnant et subtil, clair et profond, riche et rigoureux, foisonnant et engagé. Il permet de faire des ponts inattendus, de découvrir des personnalités, des œuvres, des courants de pensée, des institutions, des moments importants de l'histoire et de réfléchir à cette question de la transmission qu'il interroge en filigrane à chacune de ses pages. Comment l'idée d'un tel dictionnaire vous est-elle venue, Jean Leselbaum ?
Justement, pour des raisons de transmission, j'ai ressenti justement le besoin, pour avoir beaucoup travaillé et réfléchi à ces questions, il était temps d'essayer de rassembler dans un minimum de pages, le dictionnaire fait tout de même près d'un millier de pages, mais dans un minimum de pages tout de même, ce qu'il y avait à dire ou ce que l'on pouvait dire et qui pouvait retenir l'attention. Il s'agissait, dans un minimum de mots, de rassembler des informations qu'il nous paraissait indispensables. Et c'est donc un ouvrage qui nous a demandé environ 3 ans, dont le déroulement, si vous voulez, dans les choix, ont été à plusieurs reprises renouvelés. Et voici ce que cela donne. Ça donne un dictionnaire où, à la fois, on trouve des notions, où on trouve la mention de courant. Et finalement, je crois que le mot, à côté du mot transmission, j'aimerais peut-être mettre aussi le mot de judaïsme au pluriel. La pluralité, la variété du judaïsme. On aurait peut-être pu l'appeler dictionnaire des judaïsmes, mais c'était plus simple de dire du judaïsme français. Alors évidemment, pourquoi le judaïsme français ? Eh bien, c'est parce qu'il nous a paru qu'il y avait toute une histoire et toute une présence qui était totalement différente des judaïsmes dans d'autres pays. Il n'y a pas de doute que le judaïsme français a été formaté par l'émancipation, par le consistoire, par un certain nombre de grands moments. On aura peut-être l'occasion d'y revenir.
Oui, tout à fait. Alors, vous dites que c'est des judaïsmes. Et je crois que c'est une des choses les plus prégnantes de ce dictionnaire. On sent véritablement la diversité, à la fois la diversité culturelle, mais aussi la diversité religieuse. Et le lecteur qui souvent peut être perdu devant des appellations très compliquées comme orthodoxe, comme libéral, comme ma sortie, différentes synagogues, tout à coup, ou le judaïsme, la judéité, tout à coup, en lisant ce dictionnaire, chaque mot trouve sa rubrique et, comme je le disais, de manière extrêmement rigoureuse, extrêmement claire, et ça renvoie, un article renvoie à un autre article. Il y a quelque chose de, vraiment de très vivant et de très dynamique dans ce dictionnaire que vous avez présenté comme un fait social total. Alors, qu'est-ce que vous appelez un fait social total ?
C'est un fait social total, en cela que ça couvre à la fois l'histoire du judaïsme français depuis 1944, mais ça remonte bien évidemment bien avant 1944. Je prendrai un exemple. Lorsqu'on parle de l'affaire Dreyfus dans ce dictionnaire, on parle de ce qui est arrivé à l'affaire Dreyfus depuis 1944. Les conditions dans lesquelles on a bougé la statue, les conditions dans lesquelles on a fait des films sur Dreyfus, comment ils ont été reçus, les conditions dans lesquelles on a fait la télévision sur Dreyfus, etc. Bon, donc ça remonte déjà pour l'histoire un peu plus loin. Mais l'histoire, c'est l'affaire Halimi, l'histoire, c'est Carpentier. L'histoire, c'est des moments clés du judaïsme français, mais aussi des cultes différents. Vous les avez énoncés, ces cultes différents sont présentés, évidemment. Mais vous savez, la religion n'est pas notre objectif principal, non pas du tout qu'elle n'y soit pas. Je pense que la religion, c'est la colonne vertébrale de la transmission du patrimoine culturel juif. Mais si vous voulez, c'est la culture qui est notre objectif, les cultures juives, je dirais les cultures juives. Chacun d'entre nous est entré dans le juif français, est entré dans le judaïsme par des livres, des éléments de culture qui l'ont accroché au patrimoine culturel. Alors, ces éléments sont à la fois des éléments de rite religieux, ou bien alors des éléments culturels. Par exemple, pour ma part, je suis obligé de reconnaître que quand j'ai lu le journal d'Anne Frank, j'étais tout petit, ça a été un élément mais absolument formidable de ma perception. Je crois que j'avais une dizaine d'années, c'était beaucoup trop tôt évidemment. J'ai lu ça, j'étais absolument passionné. Et j'ai compris ce qu'était l'histoire de la petite Anne Frank. Et l'histoire de la petite Anne Frank, ça a été mon entrée dans le judaïsme. Vers 12 ans ou 13 ans, je lisais l'histoire du ghetto de Varsovie. Alors vous allez me dire, le ghetto de Varsovie, c'est pas les juifs français. Mais non, mais justement, dans ce livre, nous mettons en perspective tous les éléments culturels qui viennent de l'extérieur et qui nous ont constitués comme juifs français. Je prendrai juste un exemple contemporain. Nous avons fait un article Kertész, Imre Kertész, prix Nobel de littérature, qui pour nous a une importance absolument capitale. C'est un Hongrois. Et qu'est-ce que ça fait dans le judaïsme français ? Mais ça fait la chose suivante. C'est que je pense que Kertész, par exemple, a complètement subverti la vision qu'on avait de la déportation. En montrant qu'un enfant pouvait être heureux en déportation, malgré tout ce qu'on sait, heureux à Auschwitz, malgré tout ce qu'on sait, il a fait scandale. Il a fait scandale en Hongrie, il a fait scandale parmi les anciens déportés. Et curieusement, les juifs français, les intellectuels juifs français, dont nous parlons dans ce livre, on n'en parle pas escalité en les citant personnellement. Ce n'est pas notre objectif de faire un hit parade des intellectuels. Mais c'est un autre objectif de faire un hit parade des œuvres. Eh bien, curieusement, dans les articles qu'ils ont écrits, dans les œuvres qu'ils ont écrites, ils ont traité par un certain mépris, je suis obligé de le dire, Kertész. Et ça, ce mauvais accueil des intellectuels, des juifs français à Kertész, ça faisait aussi partie de notre livre, pour dire que nous ne sommes pas géographiques. Nous montrons, si vous voulez, ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de moins bon dans ce patrimoine culturel juif français.
Alors, on le sent très bien, il y a véritablement un esprit critique, et cette distinction que vous faites ou ne faites pas, justement, dans l'entrée dans le judaïsme, par à la fois le rituel, par la liturgie classique, oui, si vous voulez, et le culturel, on sent vraiment cette intrication permanente qui est véritablement, en fait, la vie du juif français qui a aujourd'hui, et peut-être depuis toujours, cette difficulté à faire la part des deux entrées dans le judaïsme. Mais vous venez de citer quelque chose de très important, vous avez dit, ce sont les livres, ce sont les œuvres. Et c'est presque c'est les œuvres, c'est l'étude. Et il y a, depuis 1944, des moments importants de la constitution de cette étude et de ces œuvres et de cet esprit juif français ou français et juif, ce sont deux écoles ou deux événements intellectuels qui ont marqué l'après 44 et les années 50. C'est d'une part l'école d'Orsay et d'autre part le colloque des intellectuels juifs de langue française créé en 1957. Et je voudrais que on s'arrête quelques instants sur ces deux événements. Alors on va commencer avec Jean Lieselbaum par l'école d'Orsay et on continuera avec Antoine Speer sur le colloque des intellectuels juifs de langue française.
Oui, l'école d'Orsay a profondément marqué au lendemain de la guerre et au lendemain de la libération, a profondément marqué le judaïsme. Disons tout de même un mot peut-être d'entrée, c'est que je me demande s'il a été tellement aidé, finalement, par les Juifs eux-mêmes.
Alors, expliquez d'abord ce que c'est que l'école d'Orsay. Alors,
l'école d'Orsay a été constituée pratiquement par Gordin, qui a très vite disparu d'ailleurs, qui a été le premier directeur, et qui se trouvait du côté d'Orsay, justement, dans une école que l'on appelait l'école Bloch, justement.
Gilbert Bloch,
qui était, je crois, un lieutenant des maquis qui avait été tué au moment de la résistance. Et donc, il y a eu cette réunion, d'abord, un très petit nombre de personnes d'ailleurs, de jeunes devrais-je dire, et il s'agissait de revitaliser finalement le judaïsme français qui était exsangue, ou quasiment exsangue, mais tout de même qui avait été préparé, on avait préparé cette revitalisation dans les maquis, dans les refuges, etc., pendant toute la résistance. Il y avait tout un travail souterrain qui avait été fait, encore fallait-il aller plus loin. Gordin, si ma mémoire est bonne, avait trouvé à la fois appui sur justement ce qu'il avait connu dans les maquis, notamment des Alsaciens qui seront très présents, notamment les EI, qui le seront aussi,
les éclaireurs
israélites de France, et qui avait fait un voyage aussi en Afrique du Nord pour essayer de trouver justement un Afrique du Nord qui avait été tout de même indemne, si vous voulez, de l'hitlérisme,
oui,
et de la persécution. Et il avait trouvé là
un terreau, des jeunes.
C'est pas étonnant d'ailleurs qu'il ait trouvé notamment Léon Askenazi, Manitou,
oui,
qui par ailleurs d'ailleurs avait lui-même fait de la résistance, des combats, etc.
Mais quelle est la particularité, je dirais pédagogique, philosophique, culturelle de cette école d'Orsay?
Eh bien, c'était de marier l'étude des textes avec les problèmes, la modernité, si vous voulez, au lendemain de la Shoah.
Oui.
Et avec tout ce nom, avec cette Shoah qui était un non-sens quand on y réfléchit.
Donc Jacob Gordin, qui est un philosophe, oui, d'origine russe, qui a, oui, fait ses études en Allemagne, oui, va introduire non pas une réflexion sur, oui, le judaïsme comme le faisait la Wissenschaft Judentum, c'est-à-dire,
oui, voilà,
quelque chose d'un peu universitaire, d'un peu sec, d'un peu catalogue de fiches, etc., mais véritablement un retour au texte et à l'étude. Et c'est dans ce retour au texte et à l'étude, c'est-à-dire à la fois au Talmud, à la fois au Midrash, que dans le même temps, en fait je dirais presque, pas dans le même temps, mais 10 ans après, va naître le colloque des intellectuels juifs de langue française, Antoine Speer.
Alors ce colloque d'intellectuels juifs de langue française, j'ai la chance d'avoir publié dans ma collection Judaïsme, aux mêmes éditions du Bord de l'Eau, un livre de Sandrine Sfark. Sandrine Sfark est une des responsables de l'actualité juive, et elle a fait sa thèse sur ce colloque des intellectuels juifs. Et elle montre très bien comment, dès le départ, effectivement, Jacob Gordin a été en partie à l'origine de cette semaine. Pas seulement lui, mais avec lui, il y avait Lévinas. Vous savez qu'à la fin du colloque des intellectuels juifs de langue française, il y avait toujours une leçon de Lévinas, de toutes les années qui ont terminé. Une leçon qui a pris de plus en plus un ton un peu sacré. Nous avons dans le dictionnaire plusieurs articles sur les contributions de Lévinas, très très poli, très respectueux, très révérencieux, mais quelques-uns qui sont un peu critiques, et j'en suis, pour tenter d'expliquer qu'on a un peu idéalisé Lévinas et on en a fait un gourou qui ne méritait peut-être pas d'être. Essayer de le diminuer que de dire ça, mais dire que la semaine des intellectuels n'était pas que Lévinas. La semaine des intellectuels, c'était autre chose, c'était un rassemblement de points de vue à la fois contradictoires, qui essayaient de confronter l'étude des textes, exactement comme l'avait fait Gordine au sortir de la guerre, de confronter l'étude des textes au monde présent. C'est-à-dire les Juifs, se faisaient fort, et c'était neuf pour eux, de se poser la question de savoir comment, au nom de leur patrimoine culturel, ils répondaient aux aléas de l'actualité. Et de ce point de vue, il y a eu des choses vraiment très très importantes qui ont été faites dans cette semaine. Et quand on lit le livre de Sandrine Svark, là l'article qu'elle a fait est une petite synthèse de sa thèse, on se rend compte que c'était extraordinairement riche. On parlait à la fois des problèmes culturels très divers, comment les Juifs abordent le problème de la nation, comment les Juifs abordent le problème de l'Europe, comment les Juifs abordent le problème des rapports au monde, des rapports à l'autre, qu'est-ce que c'est que l'autre dans la tradition juive, qu'est-ce que c'est que le judaïsme par rapport aux autres traditions vivantes et dominantes en France. De ce point de vue, je voudrais vous dire que cette semaine était évidemment, je dirais, le reflet inversé de ce que c'était que la semaine des intellectuels catholiques, qui a joué un très très grand rôle aussi à cette époque, puisque c'était les années 50-60, où tout le monde allait à cette semaine des intellectuels, je parle des intellectuels, allait à cette semaine des intellectuels catholiques. Et la semaine des intellectuels juifs, si vous voulez, ce colloque des intellectuels juifs était un peu le pendant des intellectuels catholiques. Ils étaient présents, les catholiques étaient invités, les chrétiens en général étaient invités, les protestants étaient invités, et il y avait des débats d'une semaine à l'autre, avec on se renvoyait les sujets. Et je crois que ça c'est très très important, parce que ça s'est développé, je dirais, de façon très, très étonnante. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi ça s'est arrêté. Alors, est-ce que ça ne correspondait plus, ces questions que pose Sandrine Svark, est-ce que ça ne correspondait plus au monde dans lequel on était à la fin des années, au début des années 80? Moi, je crois qu'il y a une autre raison. Il y a une autre raison, c'est que Jean a parlé du pluralisme culturel des Juifs. Ce pluralisme culturel n'arrivait plus à s'exprimer. C'est-à-dire que les institutions, et c'est toujours comme ça chez les Juifs, comme partout d'ailleurs, les institutions ont petit à petit pris le pouvoir, dans cette semaine, comme ailleurs, et cette institutionnalisation de la semaine avait évacué tout ce qui était neuf et qui se développait, comme toujours, dans les marges. Et donc les marges n'étaient pas tellement invitées, n'étaient pas représentées. Ils étaient invités, ils pouvaient venir, mais ils se taisaient, hein, taisez-vous. Bon, et en conséquence, inévitablement, la rénovation possible qui venait des marges, et qui aujourd'hui est très riche dans le judaïsme français. Vous savez, les gens qui regardent le judaïsme français et qui n'ont pas lu notre dictionnaire pensent parfois que le judaïsme, c'est un peu comme le catholicisme. C'est-à-dire que nous avons un Vatican. Or, comme vous le savez, nous n'avons pas de Vatican, nous n'avons pas de centralité, et en conséquence, nous avons une diversité extraordinaire d'initiatives. Et je crois que ce qui est le plus frappant, c'est que cette identification avec le catholicisme s'est faite aussi chez les Juifs. Et pour parler d'un fil rouge de notre dictionnaire, moi j'en ai un, pour ma part. Un des fils rouges, c'est que le monde religieux juif s'est trop mis dans les pas du catholicisme français, religion dominante. C'est-à-dire que le judaïsme français, par ses institutions, pas du tout par ses marges innovantes, mais par ses institutions majoritaires, a eu tendance à refléter d'une certaine façon le catholicisme. Et on a vu, par exemple, des concepts venir dans la vie intellectuelle comme judéo-christianisme. Qu'est-ce que c'est que ce concept? Concept utilisé par des gens comme Debray, comme Onfray, qui croient qu'il y a un judéo-christianisme. Bien sûr, le christianisme est issu du judaïsme. Enfin, écoutez, la contradiction entre le judaïsme et le christianisme, c'est pas à Marc Alain Wapping que je vais l'apprendre, elle est flagrante. Les contradictions sont énormes. Non pas du tout qu'il n'y ait pas des points communs, il y a des points communs. Mais montrer que nous n'avons pas la même tradition, un rabbin n'a rien à voir avec un prêtre. Or, petit à petit, on en est venu à dire, les rabbins, c'est les prêtres des Juifs. On en est venu à dire des choses comme ça, qui laissaient entendre que nous étions constitués, nous, Juifs, sur le modèle des chrétiens.
Alors, votre dictionnaire, justement, rétablit tout ça avec rigueur, avec humour aussi, parce que en vous écoutant parler l'un et l'autre, et puis en ayant lu à la fois vos articles dans ce dictionnaire et les articles des autres, ce que l'on sent, c'est la volonté justement de garder l'esprit critique, à la fois un souffle de rénovation, mais en même temps un respect de la tradition. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme ce paradoxe d'un livre de Rosenberg qui s'appelle Harold Rosenberg, la tradition du nouveau. Ça veut dire qu'il faut à la fois perpétuer la tradition, il faut qu'il y ait quelque chose qui se transmette des textes par l'étude, mais en même temps une immense liberté, c'est pour ça qu'il n'y a pas de pape, une immense liberté où chacun a la possibilité d'amener sa propre interprétation, sa propre subjectivité, ce qu'on appelle en hébreu le chidouche. Et en vous lisant l'un et l'autre, et lisant votre dictionnaire, j'ai pensé à cette histoire juive d'un rabbi chassidique qui vient à mourir et les disciples décident de le remplacer. Alors ils réfléchissent, ils se disent mais qui on va nommer ? Ils disent, tiens, il y a le fils du rabbi. Alors ils vont nommer le fils du rabbi et au bout de 6 mois ils viennent voir le fils du rabbi. Il dit mais il y a un problème rabbi parce que nous on t'a nommé parce qu'on pensait que tu faisais comme ton père mais tu fais pas comme du tout comme ton père. Donc on va choisir quelqu'un d'autre. Il dit, vous méprenez, vous vous trompez, je fais exactement comme mon père, de la même façon que lui n'a pas fait comme le sien, moi non plus.
C'était quelle date exactement ? Quel âge aviez-vous à l'époque ? En rêviez-vous depuis longtemps ? Leur en parliez-vous ? Quelquefois ? Le faisiez-vous avec passion ? Avec ferveur ? Exaltation avec angoisse, appréhension. Disiez-vous « Goodbye to all that. Wie Gott in Frankreich leben. » Heureux comme Dieu en France. Pourquoi avoir choisi la France ?
Alors Jean Lesenbaum et Antoine Spire, vous avez reconnu ce générique des dossiers de l'écran. C'était la petite surprise de Talmudic. Et c'était suivi par un texte de Annie Zadek qui s'appelle « Nécessaire et urgent ». J'avais envie d'entendre cette notion de pourquoi vous avez choisi la France. Parce qu'on parle du judaïsme français, mais en même temps, ce judaïsme français est composé de beaucoup, beaucoup, beaucoup de juifs qui sont pas nés en France, qui sont venus à la fois de l'Europe de l'Est, on a parlé tout à l'heure de Lévinas, mais de bien d'autres, qui sont venus de Lituanie. Il y a eu tout cet apport des juifs d'Afrique du Nord à partir de 62. Et donc, ce sont des sensibilités différentes, des manières liturgiques, culturelles différentes. Et pourtant, la France, c'est-à-dire la France a réussi à faire que ça soit un judaïsme français, même si vous avez parlé de judaïsme au pluriel, c'est-à-dire de différents courants, mais la France a réussi à être le terreau, enfin, de cette conciliation de différents horizons. Et en écoutant ce générique des dossiers de l'écran, je me suis demandé comment vous allez réagir l'un et l'autre.
Mais d'abord, je vous dirais que il n'y a pas un judaïsme français. Moi, j'y tiens parce que Jean y a insisté tout à l'heure. Quand je dis des judaïsmes, c'est pas seulement des pratiques religieuses différentes. C'est des rapports au judaïsme. Vous savez, vous voyez toujours, enfin tout le monde voit toujours ce qui est émergé de l'iceberg. Ce qui est émergé de l'iceberg, c'est les gens qui vont à la synagogue. Mais est-ce que vous savez, je suppose que vous le savez évidemment, que 85% des juifs de France ne vont jamais à la synagogue. C'est des juifs. C'est des juifs de France. 85%. Oui. Alors arrêtons d'identifier les juifs aux 15% qui vont à la synagogue. Attendez, mais c'est bien plus encore. Si on examine exactement ce qu'est la référence de la plupart des juifs français à leur patrimoine, comme vous l'avez dit, ils ne font pas ce que font leurs pères. C'est-à-dire qu'ils ont un rapport à la religion, dans la mesure où la religion existe, l'étude de la religion continue à exister, même quand on est en dehors de la synagogue. On veut savoir, et quand on fait Pessah, on relit quand même dans la famille ce texte extraordinaire où les Hébreux, au fond, ont la possibilité, grâce à Dieu, de se libérer et de passer d'Égypte de l'autre côté de la rive. Et j'ai l'impression, si vous voulez, que ce travail de libération des Juifs, qui est fondamentale et qui occupe toutes les familles juives principalement, eh bien, il ne se fait pas dans des normes objectives que tout le monde croit identifiées et communes à tout le monde. Il se fait de façon très diverse. Et vraiment, pour moi, ça me paraît absolument essentiel de respecter cette diversité. Vous avez parlé de transmission, mais vous savez, la transmission, c'est toujours de biais, la transmission. On transmet de biais. Mon ami Jacques Assoun racontait dans les Indes occidentales comment Christophe Colomb allait à la recherche des Indes. Et il est tombé sur l'Amérique. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il répétait ce que faisaient les prédécesseurs. Et en répétant, il a fait du nouveau. Il est tombé sur l'Amérique. C'est en répétant qu'on fait du neuf. Et je crois que c'est ça qui est absolument fondamental. Et nos enfants répètent, mais font du neuf.
C'est un des points sur lesquels nous ne nous affrontons pas, Antoine et moi-même, mais où nous nous complétons, devrais-je dire. Antoine parle des procédures. Et moi, j'aimerais parler des contenus. C'est totalement différent. Il faut tout de même voir que dans la transmission, il faut avoir beaucoup à transmettre pour arriver à transmettre peu de choses. Il y a une terrible déperdition. Toute question de billets étant, non pas mise à part, mais en tenant compte, bien entendu.
Je ne pense pas qu'il y ait déperdition, je pense qu'il y a enrichissement. Voilà.
Alors, non, mais je n'ai pas dit qu'il n'y aurait pas d'enrichissement. Il y a déperdition. Et par conséquent, ce qu'il faut voir, c'est la somme d'efforts qu'il faut déployer pour que nos enfants, nos petits-enfants, gardent quelque chose de cette identité juive et de cette histoire. Entendu, d'ailleurs, au sens plein du terme, c'est-à-dire à la fois les aspects religieux et les aspects profanes, qui me semblent aller ensemble, si vous voulez. Et c'est cela, moi, qui me préoccupe. C'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle ce dictionnaire, j'ai tellement tenu, avec le concours d'Antoine, à le faire. Il faut transmettre, il faut essayer d'en transmettre beaucoup. Il n'y a pas un minimum qu'il faut laisser. Si vous voulez, pour le dire autrement, toutes ces études, tout ce que les enfants apprennent, tout ce que nous croyons, non pas, tout ce que nous leur transmettons, c'est finalement très très peu de choses. Et les risques de l'enrichissement et de la déperdition sont au moins aussi grands les uns que les autres. Bien sûr, nos enfants vont s'approprier, c'est le mot je crois que j'emploierai, ils vont s'approprier de ce que nous leur avons dit, à leur façon, avec leur façon de voir, mais malgré tout, il faut qu'on leur offre quelque chose.
Oui.
Et ce que je ressens, c'est qu'on ne leur offre pas assez.
Oui, mais en même temps, dans votre dictionnaire, alors je rebondis sur ce que vous dites l'un et l'autre, c'est qu'il est clair, et j'en suis absolument convaincu déjà personnellement, qu'il n'y a pas de judaïsme français, comme vous le dites, et qu'il y a une infinité d'entrées dans le judaïsme qui n'est pas du tout nécessairement religieux. Il y a dans votre dictionnaire un article qui s'appelle « Un juif sans Dieu », qui est très important. Et c'est très important de dire que, comme vous le dites, 85% des gens ne vont pas à la synagogue. Mais c'est très clair dans le dictionnaire, et c'est ça qui fait sa richesse, parce qu'on montre qu'on entre dans le judaïsme par la littérature, par la poésie, par la musique, par la peinture, par les musées, par la sociologie, par la philosophie. J'ouvre une parenthèse. Vous avez minimisé le rôle de Lévinas. Je tiens à dire pour les auditeurs que la personne la plus citée dans le dictionnaire, c'est Lévinas.
C'est naturel.
C'est lui qui a le plus d'entrées. Et vous avez insisté sur l'ensemble des personnes qui assistaient au colloque des intellectuels juifs. Il y avait Jean Kélévitch, il y avait André Néer, il y avait Manitou, il y avait Alperin, il y avait Mizrahi, il y avait un ensemble de gens, il y avait Vladimir Rabi, il y avait un ensemble de gens absolument fascinants qu'on a la chance de redécouvrir aussi dans votre livre. Et là, je poserai une dernière question, le temps passe vite. Vous avez dit, en passant, mais il faut le préciser, que vous n'avez pas voulu faire un ouz-ou des personnalités, des intellectuels. Il y a un article sur intellectuels, mais vous vous êtes attaché à présenter des œuvres.
Oui, il y a un article sur intellectuels, intellectuels juifs.
Oui.
Je ferai remarquer qu'il est précédé d'un article intellectuel chrétien.
Oui,
alors que l'on doit à Schlegel, et qui est absolument extrêmement intéressant. De même que l'article concernant les intellectuels juifs est signé par Daniel Lindenberg, qui a fait un travail d'une écriture d'une très grande honnêteté. Il a été à l'origine d'une controverse, mais il a tenu, à, non pas ce qu'on oublie, la controverse, mais il a tenu à faire un article d'une très grande honnêteté. Et il montre bien les différentes phases par lesquelles sont passés les intellectuels. Mais évidemment, nous avons ouvert les colonnes aux œuvres les plus importantes de ces intellectuels, et nous avons voulu l'aborder par le côté, justement, de leurs œuvres et non pas de leurs personnes. Mmh. Et sur ce point, Antoine, sans doute, ajoutera quelques mots.
Oui, je veux juste dire, par exemple, dans ma génération, Alain Finkielkraut, avec qui j'ai travaillé pendant des années à France Culture, on était chacun dans des émissions différentes, Alain Finkielkraut, si vous voulez, se définit d'abord dans le dictionnaire par le juif imaginaire. On ne parle pas d'Alain Finkielkraut en tant que tel, on parle du juif imaginaire. Parce que dans ma génération, le juif imaginaire, ça a été un moment clé. Pour absolument comprendre de quelle manière nous avions, ma génération, pris en compte ce qui s'était passé pendant la Shoah. Au fond, on se croyait totalement immergé dans la Shoah, et c'est ça qui nous faisait juifs. Oui. Et c'est en cela que nous étions des juifs imaginaires. Mmh. Et je trouve que c'est très très important que Finkielkraut ait fait ce livre. Donc si vous voulez, c'est à partir du juif imaginaire que nous racontons l'histoire de Finkielkraut. Mmh. Mais ce n'est pas l'histoire de l'individu qui nous intéresse, c'est en quoi ce moment clé dans la vie intellectuelle a été décisif.
Alors, c'est tellement passionnant de vous entendre sur cette question, sur ce dictionnaire que vous avez co-dirigé, Jean Leselbaum et Antoine Speer, dictionnaire du judaïsme français depuis 1944. Je vous propose, si vous le voulez bien, que nous nous retrouvions la semaine prochaine pour poursuivre notre conversation et aborder, il y a tellement de points que nous voulons encore découvrir avec vous. C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wacknin, préparée avec Françoise-Anne Ménager, à la technique aujourd'hui Philippe Palares, à la réalisation Dany Journeau. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant les livres, les auteurs et les documents que nous avons cités sur le site. L'œil traote, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.